Hello, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah et je suis dealeuse de peps pour nanas épuisées grâce à mon expérience d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et ma passion pour la trichothérapie. Alors, ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver confiance en toi et à reprendre goût à la vie. Du coup, chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi reconversion, épanouissement, espoir, résilience et bien sûr trichothérapie. Si jamais tu sens que tu ne vas pas bien, tu sens que tu es plus fatigué que d'habitude, que tu es moins efficace que d'habitude, mais voilà, on n'est pas encore dans le burn-out, on est vraiment dans la phase 2, voire même dans le burn-in, eh bien je t'encourage à rejoindre mon programme Bouclier anti-burn-out pour mettre en place tout ce qu'il faut avec un accompagnement personnalisé pour éviter justement cette phase d'effondrement qui est le burn-out. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir dans le podcast Élise Fabing. Élise Fabing, elle est connue sur Instagram parce qu'elle donne des conseils juridiques sur les comptes type balance ta startup, balance ton agence. Et elle est connue aussi par le classement QG comme étant l'une des 30 avocats les plus puissants de France. Elle défend le droit du travail et elle a écrit un livre notamment sur le harcèlement au travail que je t'encourage vivement à lire. Il y a dedans absolument tout ce que tu dois savoir en tant que salarié. Et d'ailleurs, dans ce podcast, elle va nous partager une bonne partie de ses conseils, en tout cas la base que tu dois connaître pour te protéger et pour sortir indemne finalement d'un harcèlement au travail et ne pas te sentir lésé par ton entreprise. Je te souhaite une très bonne écoute. Coucou Élise, comment tu vas?
Salut Sarah, ben ça va bien et toi?
Merci, ça va très bien. Super ravie de t'accueillir sur le podcast Le Café des Burnies. Aujourd'hui, du coup, on va parler juridique. On va parler droit, on
Hey.
va parler loi. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsque le travail finalement pousse le salarié au burn-out? Mais avant tout, qui es-tu?
Alors, moi, je suis avocate spécialiste en droit du travail. J'ai fondé un cabinet qui s'appelle Alchemist Avocat. Donc, on est une petite équipe d'avocats spécialisés dans la défense des salariés, uniquement des salariés. Et je suis aussi l'autrice du manuel contre le harcèlement au travail qui est paru chez Hachette. On essaye d'intervenir pas mal sur les réseaux et autres pour simplifier le droit du travail parce que le droit du travail is sexy. Et c'est pas si compliqué que ça. Et c'est vrai qu'il y a trop de personnes qui savent pas du tout par quel bout prendre et comment se protéger. Donc, nous, on est là pour essayer de leur simplifier la vie et de leur donner au moins des conseils. Et dans le bouquin, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire, c'est qu'avec ce livre, ils aient au moins tous des petits conseils d'urgence, parce que je vois trop de dossiers vides arriver au bureau. Et une fois qu'il y a un licenciement qui est fait, qu'il y a une procédure disciplinaire, c'est un peu plus compliqué quand on ne s'est pas préparé en amont.
Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant de savoir à partir de quand on peut se dire, il y a un problème en fait dans mon bureau, il y a un problème dans mon hôpital, mon service. À partir de quand on peut les signes d'alerte un peu.
Bah, les signes d'alerte, c'est quand tu vas au boulot avec la boule au ventre. Déjà, c'est pas normal. Donc, c'est coûté et les gens savent pas le faire. Enfin, tu vois, moi, j'ai le souvenir d'une salariée notamment qui venait me voir avec tu vois, des textos de harcèlement sexuel. C'était complètement dingue. Et elle était super dans le déni et elle avait besoin que moi, je lui dise, comme tiers neutre, en tant que tiers neutre, là, c'est une situation de harcèlement sexuel, c'est clair. Et il n'y avait pas besoin d'être avocate pour le voir. Simplement, dans ces situations-là, et je pense particulièrement aux femmes qui ont ce syndrome du bon élève, elles encaissent, elles encaissent, elles encaissent, elles se disent qu'elles vont régler le problème et que tout vient d'elles et que ça va finir par s'arranger, elles se remettent beaucoup en question. Et donc, elles n'osent pas forcément franchir la porte d'un cabinet d'avocat. Et elles restent souvent seules avec leurs problèmes parce qu'elles se trouvent en situation, elles ont l'impression d'être en situation d'échec alors qu'elles sont victimes. Donc, pour moi, l'alerte, c'est vraiment quand il y a un ressenti de mal-être au travail. Et il faut faire attention parce que le corps peut se mettre à lâcher à un moment donné. Et si on n'écoute pas les signes avant-coureurs, ça peut être dramatique. Moi, j'ai eu des clients qui étaient plus capables de se lever le matin. Et ça, c'est le burn-out, c'est classique. Et en fait, ils ont tellement tiré sur la corde qu'à un moment, bah, c'est le corps qui dit, eh oh, moi, je suis plus là, j'arrête.
Exact. Et la loi, elle dit quoi là-dessus?
La loi, elle est pas hyper claire. C'est le harcèlement moral, si tu veux, ce sont tous les agissements de l'employeur qui conduisent à dégrader les conditions de travail, à humilier. Mais le texte n'est pas hyper clair. C'est en fait la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions de justice, qui vont vraiment définir ce que c'est, parce que c'est vraiment in concreto, c'est-à-dire que le juge, il va regarder vos éléments pour voir s'il y a harcèlement. Et donc, ça dépend vraiment de chaque dossier. Souvent, ça peut être une mise au placard. Ça, c'est du harcèlement moral. Une amplitude de travail vraiment trop importante. Ça aussi, c'est du harcèlement au travail. Ça va être des humiliations répétées. Enfin, ça peut être plein, 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 plein de choses. Et la définition juridique étant assez large, il faut que ce soit répété dans la définition juridique. Donc, plusieurs agissements
D'accord.
répétés. Par contre, pour le harcèlement sexuel, il suffit d'un acte pour que ça puisse être qualifié. Et la définition du harcèlement sexuel a aussi été enrichie il n'y a pas très longtemps dans la loi. Maintenant, on peut faire rentrer dedans les ambiances de travail sexistes et
Ce que
livoises.
j'allais dire, est-ce que les blagues toutes dégueulasses dans les bureaux et tout ça sont considérées comme du harcèlement sexuel?
Oui, et puis morale aussi, hein, bien sûr. Alors,
Oui.
avant la modification à la loi, nous, on allait sur le terrain du harcèlement moral. Donc, en fait, cette définition, elle montre que le législateur a vraiment une volonté de classifier ça en harcèlement sexuel. Mais dans les faits, dans la pratique, d'un point de vue indemnisation, etc., ça ne change rien. On demandait déjà ça sur le terrain du harcèlement moral, parce qu'évidemment, personne n'a à subir une ambiance sexiste, grivoise. Et puis sur le terrain du harcèlement moral aussi, raciste, enfin, ce sont des choses qu'on voit fréquemment. Il faut savoir aussi qu'il y a souvent, enfin pas toujours, hein, mais régulièrement derrière le harcèlement, une discrimination.
Ouais,
Une
exact.
discrimination, alors liée au sexe, liée aux origines, liée à plein de choses. Et une discrimination est très souvent harcelante. Là, on cumule.
Pour revenir un petit peu au harcèlement moral, en tout cas, genre de mon vécu, de mon expérience. C'était tout le temps, c'est tourné en blague. Et du coup, tu passais pour la meuf agressive. On peut plus rire avec toi, vu que toi, tu as mal pris la réflexion, tu as mal pris la blague. Et je me dis, est-ce que c'est suffisant, en fait, pour aller en parler?
Alors, le problème, c'est que le nerf de la guerre dans ces dossiers de harcèlement et de discrimination, c'est la preuve.
Ouais, bah oui.
Il faut que tu arrives à prouver ces éléments-là. Donc, pour ça, ce qu'il faut, c'est susciter les cris au maximum, parce que c'est la reine de la preuve. Quand tu tapes une blague sexiste, raciste, whatever, c'est faire un petit texto à tes collègues qui étaient là, par exemple, en disant j'en peux plus de cette blague, j'ai vraiment l'impression d'être la blonde de service ou n'importe quoi. Et le collègue va répondre, ouais, j'approuve pas, je suis désolée, je comprends que tu l'aies mal vécu. Donc, ça, c'est des éléments dont on va se servir pour la preuve. Après, sur des choses, notamment du harcèlement sexuel, mais aussi le harcèlement moral, sur des humiliations ou autres, les enregistrements sont recevables comme mode de preuve maintenant,
Ok.
devant la juridiction civile,
Sans leur dire.
sans leur dire. Donc, n'hésitez pas à enregistrer le patron qui te fait des avances, et ben, tu l'enregistres. Voilà. Parce que, à un moment donné, quand ton dossier sera suffisamment constitué, il va falloir alerter l'entreprise sur tes agissements. Et même si en interne, tu peux alerter sur tes agissements, alors déjà, règle une, tu n'alertes jamais uniquement à l'oral.
Toujours par
Parce
écrit.
que, parce qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de pièce, et l'entreprise va dire, oh, ben nous, on n'était pas du tout au courant. Et tu vois, j'ai beaucoup de dossiers dans lesquels la personne est allée voir les RH pour se plaindre d'un harcèlement ou d'une discrimination, et bam, 3 jours après, convocation à un entretien préalable d'un éventuel licenciement.
Aïe, aïe, aïe.
Et on ne peut pas tracer ce qui a été dit au rendez-vous RH, tu vois. Donc, c'est hyper important, si tu veux le faire à l'oral, ok, mais dès que tu sors du rendez-vous, tu fais un petit compte-rendu écrit. Dire, voilà, au rendez-vous, j'ai dit ça, 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 ça. Tu m'as dit que ça, 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 ça. Et hop, on envoie. Comme ça, on trace. Et évidemment, vous gardez copie de tous vos échanges, de tous vos mails, de tous vos textos, parce que si vous êtes licencié, on peut couper vos accès à votre messagerie pro,
Oui.
portable pro, etc. Donc, il faut faire
Tout
extrêmement attention,
transférer.
tout transférer. Voilà. Et les copies d'écran, si vous êtes dans une boîte, je sais pas, il y a un système informatique très sécurisé, les copies d'écran des photos.
Est-ce qu'il y a une genre un délai? Tu sais ce qu'on peut, on doit même attendre un délai parce que tu parlais de répétition. Donc
Ouais.
répétition quoi? Pendant une semaine, pendant un mois, est-ce qu'il y a
Alors,
une règle?
la loi, elle fixe pas de délai entre les deux agissements. Donc, parfois, c'est éloigné, parfois, ça l'est moins. Donc, après, c'est toujours une construction du dossier basée sur la preuve. Donc, plus il y en a, mieux c'est. Donc, c'est vrai que moi, souvent, quand j'interviens dans ces dossiers-là, je suis sous-marin pendant un petit temps. Je n'apparais pas, je n'échange pas avec l'entreprise le temps de bien constituer le dossier. Et ensuite, je sors du bois, tu vois.
Et du coup, pour s'en protéger, alors on a dit susciter les cris quoi qu'il arrive, garder des enregistrements, garder tous enfin, tous les échanges avec l'entreprise. Mais est-ce qu'en termes de comportement, il y a quelque chose à avoir des fois mais c'est comme revenir ouais, à dire que c'est la faute de la personne, mais est-ce qu'il y a peut-être tes clientes hein, ou tes clientes, vu que moi c'est surtout une audience féminine. Est-ce qu'il y a dans le comportement un truc qui revient souvent où on se dit, ouais, la prochaine fois, je ferai pas ça?
Ben moi, souvent, elles s'écrasent en fait.
Ouais.
Elles s'écrasent, elles sont en déni, elles essayent de ne pas craquer, elles s'accrochent, elles essayent de bosser trois fois plus, et elles se font deux fois plus une idée. Enfin, tu vois, c'est un
Ça fait
peu cercle
burn-out.
vicieux. Ouais, non, mais c'est cercle vicieux et c'est de rester seule vraiment trop longtemps. Je dis pas forcément qu'il faut aller voir un avocat, mais bon, je pense que c'est important. Mais pensez aux médecins, pensez à des psychologues, pensez à des psychiatres, parce que et pensez à en parler aussi à vos proches. Tu vois, moi j'ai des femmes qui osent pas en parler à leur mec,
Ouais.
ni à leur entourage, ni à leurs parents, parce que il y a encore un tabou autour de ces questions-là en France. Où si t'as pas une vie professionnelle hyper épanouie, réussie, t'es pas une working girl avec tout réussi, t'es une ratée, quoi.
Exact.
Alors qu'en fait, t'es victime et souvent le harcèlement, c'est systémique. C'est mis en place. Alors, t'as deux types, hein, t'as le harcèlement systémique, donc t'es mis en place tout en haut de la pyramide hiérarchique de la boîte. Où là, du coup, il y a tellement de pression que ça ruisselle. Donc toi, t'es soumise à une pression de fou. Donc ça peut être du harcèlement systémique. Et puis, tu as aussi des boîtes qui sont plutôt saines, mais il suffit d'un manager connard, pour qu'il vienne
Tout bousiller.
détruire, tout bousiller et casser quelqu'un, parce qu'on met du temps à se remettre d'un épisode de harcèlement. Donc, il est essentiel d'essayer de s'en sortir le plus rapidement possible et de ne pas laisser perdurer les situations. Parce que sinon, on arrive à des maladies psychiques beaucoup plus graves, donc évidemment le burn-out, le syndrome dépressif réactionnel, qui nécessite des arrêts longs et des soins importants, et parfois des hospitalisations.
Tout à fait. Le milieu professionnel, il est ce qu'il est sain, ce qu'il est malsain. Enfin, où est le problème? Sincèrement, moi, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, en tant qu'individu, on a intérêt à se protéger. Et quand tu disais finalement, si tu as une surcharge de boulot ou si tu es harcelé, le fait de s'isoler, ce n'est pas une bonne idée.
Non.
Donc, je reste quand même avec mes collègues, je vais aux réunions, voilà, je vais là
Surtout,
où il y a du
j'en
monde.
parle à mon entourage proche, parce que souvent les victimes sont seules avec leur douleur et elles s'en ouvrent à personne. Donc, faut pas hésiter à solliciter le soutien de ses amis à ces moments-là, de son entourage, de sa famille, parce que c'est difficile. Et c'est vrai que dans la majorité des cas de harcèlement ou de discrimination, on aboutit à une négociation de départ parce que c'est hyper
Ouais.
compliqué de trouver une solution RH. Souvent, il y a un traumatisme de la victime et le contrat de confiance avec la boîte, il est rompu. Mais du coup, il ne faut pas que ce départ qui est non souhaité et qui est subi du fait d'une situation de harcèlement soit désavantageux. Donc, il faut monétiser l'indemnisation pour être la plus libre possible. Et pour retrouver ses billes et avoir un petit matelas de sécurité, parce qu'on va devoir repartir à un moment donné pour de nouvelles aventures. Puis on a des indemnisations Pôle emploi qui sont en baisse. On a un régime de retraite, on ne va pas en parler, mais voilà. Hein. Donc,
Il n'y en a pas. Moi, je dis aux gens, en fait, partez du principe qu'il n'y en a plus. Maintenant, si tu veux ta retraite, bah, faut la préparer un peu aux États-Unis au final.
ouais,
Faut
bon,
partir du principe qu'il n'y en a
je ne suis
plus.
pas aussi catégorique que toi, mais bon, voilà, c'est compliqué. Donc, il faut bien négocier son départ et il faut que l'entreprise ait une vraie responsabilité sociale envers ses salariés qui ont subi des traumatismes.
D'ailleurs, une fois dans l'entreprise, je sens que je vais pas bien. À qui je m'adresse, tu sais, en premier, par exemple?
Bah alors déjà, tu constitues bien ton dossier pour qu'on comprenne pourquoi tu vas pas bien.
OK.
Et tu analyses le pourquoi tu vas pas bien. Parce que souvent, les victimes, au départ, elles ont du mal à y voir clair. Et ça prend un petit peu de temps. Il y a une phase de déni. Et à partir du moment où tu te dis, voilà, le comportement de mon manager n'est vraiment pas OK. Puis alors, le harcèlement, ça peut être aussi horizontal. Hein. Ça peut être deux autres collègues de travail qui t'appellent. Voilà, c'est pas forcément, tu vois, dans la hiérarchie. À partir du moment où tu as analysé ça, tu constitues un peu ton dossier. Et puis ensuite, alors tu t'adresses, pour moi, déjà, t'en parles à ton cercle proche. Alors, pas forcément à tes collègues, hein, parce que ça peut fuiter. Et avant d'avoir alerté officiellement ton entreprise, vaut mieux avoir un petit peu constitué ton dossier. Mais bon, moi, je pense que mon conseil, ça serait d'aller voir un médecin, voir un avocat, en parler et pas être seul face à cette douleur-là. Et ensuite, une fois que tu as été un peu guidé et que tu as constitué ton dossier, là, souvent, moi, je préconise, quand l'état de santé le nécessite, vraiment de s'arrêter et de sortir de l'entreprise. Donc là, il faut étudier aussi le contrat de prévoyance pour voir quelles sont les garanties, combien de temps on peut être arrêté. Parce que sur une négo de départ, tu vois, il n'y a pas que le chèque avec lequel tu pars, il y a aussi une stratégie de maintien de rémunération à moyen-long terme. Donc, il
Ouais.
faut bien étudier le contrat de prévoyance.
D'où l'avocat, j'imagine.
Voilà.
Parce que moi, tu me dis la convention de mon établissement. Ok, d'accord. Je vois le paquet comme ça, là. Non, je vais pas lire.
Non, ouais, non, mais c'est vrai qu'on a un rôle qui est important dans ces moments de vie. Et puis ensuite, tu vas alerter. Alors, selon comment est construite ta boîte, mais tu vois, s'il y a une DRH, ça va être la DRH. S'il n'y a pas de DRH, ça peut être le patron. Donc, ça peut être aussi assez violent d'alerter. D'où mon conseil parfois d'être en arrêt maladie quand on le fait.
C'est encore une fois tout l'intérêt de voir un avocat. Tu vois, dans ma tête, c'était genre plutôt alerter en interne. Si, tu vois, il y a les groupes là, les CSE, ça s'appelle toujours
Oui,
comme ça,
les
les
CSE, oui.
CHSCT, tout un tas de comités au final dans une entreprise qui est là pour veiller au bon déroulement, ce que le salarié soit cool et bien traité. Donc, ouais, dans ma tête, je vais voir ce genre de groupe avant. Si ça marche pas, là, je vais voir un avocat. Mais en fait, non.
Ouais. Bah, en
On
fait, moi, je
commence par
conseille quand même
l'avocat.
d'aller voir l'avocat parce que le CSE, il y a des gens super dans les CSE, hyper engagés et très bons. Et j'en connais certains et qui ont beaucoup aidé certaines de mes clientes. Donc, je les en remercie ici. Et je leur dis bravo parce que c'est un sacré rôle. Et souvent, ils s'en prennent plein la tronche. Ils sont discriminés par ailleurs et ils ont des gros problèmes sur la conduite de leur carrière ensuite dans l'entreprise. Donc, c'est un sacré engagement.
Oui.
Mais il y en a aussi pour lesquels cet engagement est dévoyé. Moi, j'ai eu des dossiers dans lesquels bah, les gens du CSE ont récupéré des primes après avoir étudié certaines affaires ou tu vois, qui ont refusé de communiquer un compte rendu d'entretien préalable, ont refusé de faire des écrits. Donc, ça, il faut le faire dans une stratégie un peu globale avec l'avocat, une fois qu'on a un certain nombre de pièces, pour pas que le CSE. Pour pas que ça fuite, en fait,
Ouais.
et que l'employeur prenne des mesures un peu compliquées.
Donc en gros, au moins tu es sûr que l'avocat il est de ton côté, alors que ce genre de groupe, bah, tout dépend sur qui tu vas tomber.
C'est ça, exactement.
Par rapport au... Allez, imaginons maintenant, je fais donc appel à mon avocat, je constitue mon dossier, je fais appel, enfin, on transmet toute l'info au CSE et compagnie, ça remonte tout là-haut. Quelles sont les options diverses et variées, quelles sont les possibilités? Est-ce que c'est obligé de passer au prud'homme? Est-ce qu'il y a des fois des manières plus simples, les délais, tu vois, un peu
Ouais.
préparer les gens?
Alors, moi, mes dossiers, je les transige dans 85% des cas à peu près, tu vois. Donc, en fait, j'ai que 15% de mes dossiers que je vais aller plaider.
Ok. Donc,
Alors,
tout se
souvent,
passe en interne, souvent.
tout se passe en ego. Donc,
Oui.
tout se passe en ego. Donc, en général, une fois qu'on a un dossier bien complet, il y a une alerte de la salariée. Et ensuite, bah, l'avocat va intervenir. Elle va essayer d'entrer en contact avec l'avocat de la société, puisque les échanges entre avocats sont soumis à confidentialité.
OK.
Ça permet de discuter tranquillement de ce que la cliente veut et de ce que l'entreprise est prête à faire. Et parfois ça marche, donc on arrive à tout de suite à un bon accord. Donc dans ces cas-là, on va sur un licenciement transigé généralement. Alors souvent pas une rupture conventionnelle parce que c'est pas très avantageux pour la salariée pour plein de raisons. Un peu technique. Et sinon parfois quand il y a un ego coince que ça marche pas, là ça peut être courrier officiel de l'avocat, puis ça peut être saisine du conseil de prud'homme. Mais après, si on saisit, si on fait une requête, ça ne veut pas forcément dire qu'on va aller plaider le dossier. Parfois, c'est un moyen de mettre un peu la pression et d'imposer des délais, des dates. Et souvent, on transige en cours d'instance, en fait, tu
Ok.
vois, avant que le dossier soit plaidé.
Ça marche. Et si jamais le dossier arrive quand même au tribunal, voilà, tu plaides et là, on peut se dire que je suis partie pour.
Alors, ça dépend où tu es, ça dépend où tu habites. Tu vois, nous,
Ah, j'ai cru que tu allais me
on
dire ça
est.
dépend, genre le dossier. Mais non, ça dépend
Non,
de ta ville.
ça dépend de ta ville, ça dépend quel est le conseil de prud'homme compétent. Tu vois, là, on a eu un dossier il n'y a pas longtemps à Annonay, dans l'Ardèche. Bon, bah, on a eu des délais
2
super
semaines.
courts. Tu vois, là, j'en ai un autre à Saverne, pareil, hyper court. Par contre, si tu es à Nanterre, là, tu peux toujours attendre ta date, quoi. À Paris,
Ok.
ça va un petit peu. Mais tu vois, à Paris, pour prendre cet exemple-là, grosso modo, tu es convoqué dans les 3 mois à ce qu'on appelle un bureau de conciliation et d'orientation. Et c'est un moment où on donne les dates de procédure. Et souvent, tu plaides, je veux dire, 6-8 mois après, ce bureau.
Ok. C'est
Donc
quoi? Et
voilà,
pendant ce temps-là, le
pendant ce
salarié?
temps-là, soit tu es en arrêt maladie, parce
Ok.
que tu es bien couvert par la prévoyance, etc. Le jour où tu retrouves un autre taf, on essaie de te faire sortir pour inaptitude via une visite du médecin du travail au bout de 2 mois d'arrêt de travail. Soit tu démissionnes, tu fais une démission équivoque, soit tu fais une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, c'est-à-dire que tu dis que du fait des conditions de travail déplorables, etc., tu es obligé de partir, patati patata, et tu réenchaînes sur un autre job parce qu'il faut vraiment faire gaffe à ton maintien de rémunération et à ta sécurité quand tu es salarié. Donc ça, c'est des chemins de poursuite du contrat qu'on étudie, mais en tout cas, ce qu'il est important de savoir, c'est que pendant tout ce temps d'audience, parce que c'est ce qui fait peur en fait,
Bah oui, tu dis comment je fais moi
mais
pendant
comment je vais
huit
faire? Je vais
mois?
rester avec ces malades pendant 1 an en étant en procès? Non, c'est jamais ce qui se passe. Il y a des moyens techniques de faire sortir les gens des entreprises.
Mais si tu sors de l'entreprise, bah ça veut dire zéro rémunération, tu es obligé de trouver un autre travail.
Ouais, alors, sauf si tu es en arrêt maladie,
Oui.
auquel cas, et que tu as une bonne prévoyance. Auquel cas, bah, tu as un bon maintien de rémunération. Tu vois, une bonne prévoyance, c'est entre 80 et 100% de ta rémunération. C'est souvent mieux pour l'emploi. Et puis, ton état de santé peut nécessiter aussi que tu ne puisses pas chercher un emploi. Donc, faut bien faire attention à ne pas s'inscrire à Pôle emploi en même temps. Parce que quand tu es à Pôle emploi, c'est que tu peux chercher un emploi et tu ne dois pas être en arrêt
Oui.
maladie. Mais donc, c'est des trucs qui se calculent et qui s'étudient vraiment au cas par cas.
Et donc, il faut vraiment faire appel à un avocat.
Ouais, bah bon,
Parce
après, moi,
que.
bah, forcément,
Non, mais même n'importe quel salarié qui n'est pas en tout cas dans le domaine. Peut-être que si tu es dans le domaine, il y a moyen de. Mais tu vois, moi, infirmière, je sais que l'arrêt maladie, c'est possible.
Ouais.
OK. Je sais que je peux faire une rupture conventionnelle, mais si je fais une rupture conventionnelle, je peux plus plaider.
Alors, attention, quand tu es dans la fonction publique, c'est encore différent, hein.
Non, c'était dans le privé. Non,
Ouais,
c'était.
dans le privé. Dans le privé, alors une rupture conventionnelle, oui, parce que tu es censé être d'accord
Ouais,
sur le
donc c'est
dossier,
fini. Je
mais
peux
tu peux
plus.
pas. Alors, c'est pas fini sur le harcèlement notamment, mais les niveaux d'indemnisation sont assez faibles sur le harcèlement. Donc, c'est vrai qu'il faut coupler ça avec la rupture du contrat de travail pour que d'un point de vue indemnité, tu t'y retrouves.
Non, mais tout ça pour dire qu'en fait, il y a tout un aspect juridique et technique que nous, on ne maîtrise pas. Et donc, à ce moment-là, vaut mieux toujours passer par un avocat. Mais c'est intéressant de savoir qu'il faut d'abord commencer par un avocat avant d'en parler au boulot.
Ouais, parce que moi, j'ai trop de dossiers qui arrivent vite, tu vois.
Ouais.
Ils attendent d'être virés, en fait.
Ouais. Pour venir voir l'avocat.
Ouais.
Ouais, c'est trop tard. Enfin, trop tard, non, mais je
Bah
comprends.
ouais. Bon, après, on peut toujours essayer, mais tu vois, j'ai des dossiers que je leur dis, on va perdre, je ne peux pas le prendre parce qu'on n'a pas de pièces, on n'a aucun élément, donc on va perdre.
Ouais.
Et puis, ça se travaille. Un dossier, ça se travaille.
C'est clair. Il y a un truc, par contre, quand on règle les choses en négociation et donc ça ne sort pas de l'entreprise, personne ne sait ce qui s'est passé dans l'entreprise.
Ouais. Alors, quand tu signes un accord de confidentialité, quand tu signes une transaction, il y a souvent cette clause de confidentialité. Donc, effectivement, tu n'as plus le droit de parler de ce qui s'est passé. Et
Ouais.
c'est souvent ça que les boîtes achètent, hein.
Bah oui, parce que du coup, elles sont pas sanctionnées et elles pourraient refaire le même délire avec quelqu'un d'autre.
C'est ça.
Surtout quand c'est systémique, hein. Pas quand il s'agit de deux collègues
Bien
qui
sûr.
s'embrouillent.
Bien sûr.
Ouais,
Mais tu
donc
vois,
voilà.
j'ai un dossier. J'ai plusieurs dossiers de harcèlement sexuel contre une même boîte. Donc mes clientes ont eu des super chèques et tout, pas de sujet. Et donc ça leur a permis de se reconstruire, d'aller mieux, puis d'être vraiment indemnisées. Et elles n'avaient pas la force d'attendre le conseil de prud'homme et tout. Le patron, il est toujours là, quoi.
Bah oui,
Et il est toujours
ça
en place.
c'est.
Et je le vois sur LinkedIn, hein, management bienveillant, ça me rend dingue. Mais après, moi, quand je défends un dossier, si tu veux, je défends la personne, je défends pas.
Ouais, non, mais je remets pas du tout
Ouais.
en question le. Enfin, faut être dedans, il faut être dans sa peau et comprendre qu'elle, tout ce qu'elle veut, c'est que ça se termine et qu'elle passe à autre chose. Non, je. C'est pas ça, mais c'est plutôt les contrats qui sont à
Ouais,
revoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est cette fameuse clause de confidentialité qui est problématique.
mais ça, malheureusement, tu trouveras jamais une boîte qui verra un intérêt à négocier s'il n'y a pas de clause de confidentialité.
Ouais. Donc le seul moyen d'afficher quelqu'un ou tout un système, enfin tout un établissement, c'est d'aller plaider finalement.
Ça, exactement.
Mais qui dit plaider, déjà, ça veut dire qu'il faut tout un blablabla pour être rémunéré pendant, et puis c'est de l'attente, et puis être affiché, j'imagine, et ça demande des dossiers plus complets, plus costauds en preuve, enfin c'est plus endurant, c'est plus. Faut être
Ouais,
déterminé.
c'est ça. Après, j'en ai un qui refuse des transactions, qui veulent une décision de principe, et on le fait, et on gagne, et c'est chouette. Mais
Ouais.
il faut être sacrément forte. Moi, je les admire. Pour moi, ce sont des héroïnes, hein, parce qu'il faut porter un dossier comme
Ouais,
ça.
parce que j'imagine faut être là-bas, parler, discuter, tout.
Alors non, c'est ton avocat qui fait. Hein.
Ouais.
Quand c'est trop difficile, si tu veux, moi, je leur dis. Enfin, moi, je préfère quand elles viennent à l'audience, parce que bah, elles voient ce qu'est mon taf, et je trouve que c'est important. Et puis, ça peut avoir des vertus réparatrices aussi. Pour certaines qui sont dans un état vraiment compliqué, je les dispense. Enfin, je leur dis, enfin, si vous voulez, vous venez, mais si c'est trop dur d'entendre la partie adverse plaider, venez pas, je m'en occupe.
Ah bah c'est intéressant. Ça, c'est bon à savoir que finalement, on peut plaider, mais c'est enfin, c'est l'avocat qui plaide, comme
Ouais,
tu
c'est ça.
dis.
Bah, après, moi,
Et.
je leur dis toujours, si vous décidez de ne pas négocier, tu vois, c'est moi qui vais taffer, c'est moi qui vais m'occuper de tout. J'aurai besoin de vous de temps en temps. Mais grosso modo, vous sortez ça de votre tête et vous faites votre vie, quoi. Tu vois, parce que sinon, on s'en sort pas. Elles ne s'en sortent pas.
Ouais. Non, ça peut faire peur, en fait, tout simplement.
Bien
Donc, c'est
sûr.
bon à savoir que finalement, on n'est pas obligé d'être là de A à Z.
Bah ouais. Donc, je pense que c'est vraiment important. Et c'est pour ça qu'il faut bien choisir ton avocat aussi, hein, parce que. Faut qu'il y ait une grande confiance, c'est très intuitif personnalisé. Faut pas hésiter à en voir plusieurs pour sonder, pour se dire voilà, j'ai confiance, je me sens à l'aise, parce que tu vas l'avoir beaucoup au téléphone et un dossier c'est lourd et compliqué. C'est pas seulement, tu vois, un prestataire de service juridique, c'est quelqu'un qui va vraiment t'accompagner dans un moment difficile de ta vie. Donc il faut quoi? Il faut que ça se passe bien.
Et sinon, toi, des burn-out, est-ce que tu en as connu? Est-ce que tu as connu des gens? Enfin, c'est quoi ton rapport avec.
Tu veux, moi, des gens qui font des burn-out, j'en vois tout le temps. Enfin,
Ouais.
évidemment, c'est mon métier. Donc j'ai un rapport à ça, évidemment. Enfin, tu vois, je suis supervisée par une psychologue qui m'aide aussi à gérer les personnes qui souffrent de ça et de syndrome dépressif réactionnel important. parce que je suis pas formée à ça à la base, mais évidemment, moi je prends ça extrêmement au sérieux. Donc même, tu vois, dans mon entourage, mes potes, quand je les vois un peu, moi je suis en alerte rouge, j'envoie des textos, fais gaffe, nan,
Oui.
fatiguée, t'es sûr que ça va, non, tu vois, parce que forcément j'ai un prisme compliqué, moi, on vient pas me voir quand tout va bien, tu vois. Donc ouais, après, le burn-out, évidemment, pour moi, c'est un truc hyper sérieux et je me bats au quotidien pour que ce soit reconnu comme maladie professionnelle, pour que les
Ouais.
maladies psychiques du travail soient reconnues comme des maladies professionnelles. C'est aussi une partie importante de mon métier.
Exact.
Et je pense qu'il est important aussi que les entreprises prennent la mesure du phénomène et mettent en place vraiment des actions pour protéger leurs salariés. Mais ça, en fait, tu vois, les actions d'affichage, les formations, les sensibilisations, la sophro, nanana, c'est cool, hein? C'est très bien. Mais là où tu vois vraiment, si une boîte est engagée sur ces sujets-là, c'est comment elle va gérer un problème.
Oui. Non, mais pour moi, quelqu'un qui revient souvent pour... Enfin, quand... C'est le boss là dont tu parlais, qui a eu plusieurs plaintes pour harcèlement sexuel et qui est toujours en poste, bah ça déjà, c'est problématique. T'as beau me mettre
Ah,
toute la
bien sûr.
sophro du monde trois fois par
Évidemment.
semaine, c'est pas ça la solution.
Évidemment.
Donc...
Évidemment, c'est pas ça la solution. Donc, bien sûr qu'il faut surveiller ça comme du lait sur le feu et comment les entreprises se comportent face à un problème. Tu vois, il y en a qui sont hyper corrects. Tu vois, il y a quelques temps, j'ai eu un viol en entreprise. Ça arrive aussi, hein. Bah, tu vois, l'entreprise, elle a tout de suite supervisé, en fait.
Tu m'étonnes.
En charge. Tu vois, ils ont éloigné le collègue, ils ont fait une enquête, ils ont fait une procédure disciplinaire contre le collègue, etc. Et ma cliente, elle a été super accompagnée, etc. Donc, voilà, l'entreprise, tout de suite, elle a direct,
À
direct.
sanctionner quoi, le l'attaquer à
Ouais.
la racine.
Donc,
Non,
il y
non,
en
j'ai
a des
cru.
entreprises bien qui font les choses bien, il y en a, et heureusement, parce que sinon, ce serait mais, tellement déprimant. Bah, de toute façon, c'est des périodes durant lesquelles il ne faut pas rester seul. Toute l'aide dont tu peux avoir besoin, il faut la prendre. C'est le moment de prendre soin de toi.
Exact.
Et de réfléchir aussi, de remettre en question parfois ton rapport au travail. Et moi, je dis toujours que j'ai que des happy ends au bureau. Parce qu'en fait, je vois les gens aussi se transformer, réfléchir et trouver des voies qui les rendent plus heureux. Et ça, c'est vraiment chouette. J'ai un super poste d'observation là-dessus, sur toutes ces histoires de femmes qui se transforment, qui se réinventent. Et c'est assez magique.
Bah, le burn-out, c'est un peu, comme on dit, c'est un cadeau mal emballé. C'est-à-dire, bon, on peut l'éviter, why not? Mais
Ouais.
généralement, quand tu fais un burn-out après, ouais, c'est un peu la chrysalide. Et, pour celles, en tout cas, tu sais, qui font appel aux professionnels qu'il faut, qui changent tout un tas de choses dans leur vie et compagnie, ouais, elles finissent toujours par te dire, je vais beaucoup mieux. Et genre, je vais beaucoup mieux même par rapport à l'avant burn-out, quoi.
Bah ouais. Et
Elles sont plus
souvent.
alignées, elles sont plus épanouies, elles prennent des décisions qui sont, ouais, qui répondent vraiment à leurs besoins. Alors que avant le burn-out, bah, c'était tout un mode de vie un peu en pilotage automatique qui a mené au burn-out. Du coup,
C'est
ouais, non,
ça.
j'avoue.
Ouais, c'est ça. Et puis c'est vraiment te poser la question du sens de ta vie pro. Et au moins tu commences à vraiment savoir ce que tu veux pas, quoi.
Voilà, exact.
Je dis tout n'est pas perdu. C'est une phase qui ressemble à un tsunami, mais l'après est souvent vachement mieux que l'avant.
C'est clair. Et donc, ce serait quoi ton conseil pour une personne bah, qui nous écoute? Et celles qui nous écoutent, elles sont en mal-être, elles sont fatiguées, elles sont épuisées, et je dirais 80% liées au monde professionnel. Pour conclure l'épisode, qu'est-ce que tu leur dirais?
Je leur dirais vraiment de s'écouter, de faire confiance à leur intuition et d'accepter qu'elles peuvent être victimes.
Et que c'est pas la fin du monde, il n'y a aucun
Et
souci.
bah, on peut être une victime et être super guerrière en même temps,
Quand tu es une victime pendant très longtemps et que tu subis, bah c'est qu'il y a une force quand même derrière, non?
il y a une sacrée force et moi je vois aussi la différence, tu vois. Souvent, les hommes, ils viennent te voir beaucoup plus vite, hein, que les femmes. C'est ah, ça va pas trop, ça va arriver. Bon. Alors que les femmes, Et tu vois, elles endurent, quoi. Et parfois, je me demande comment elles ont fait pour tenir debout et tout ce qui leur arrive.
Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a plus de nanas qui arrivent jusqu'au burn-out, parce que le burn-out, c'est quand même un syndrome sur plusieurs mois, des fois même plusieurs années. Il y a tout un tas
Ouais.
d'étapes avant cette
Bien
phase
sûr.
d'effondrement. Et les nanas, elles arrivent jusqu'à la phase d'effondrement parce qu'elles tiennent jusqu'à ce que le corps, il puisse plus, quoi.
C'est
Mais
ça.
ouais, donc on peut être victime et super guerrière. Et c'est peut-être
Ouais.
le problème.
Mais mes clientes,
Soyez.
c'est des super héroïnes, franchement. Je les embrasse ici et je leur dis que je les trouve super fortes et qu'elles m'inspirent tous les jours.
Exact. Bah écoute, c'était une belle conclusion. Merci beaucoup, Élise, pour tout ce que tu nous as partagé. Je
Avec plaisir.
mettrai tu sais, je mettrai le lien directement. Je mettrai le lien directement vers ton livre. Je vais y arriver. Et puis, écoute, à très vite. Prends soin
Bah
de
oui,
toi.
à très vite. Je te parlerai de mon deuxième bouquin là que je suis en train
Ouais?
d'écrire.
Ah, il y en a un de prévu, là? Et genre, tu galères à l'écrire ou il est écrit, il est prévu?
Non, je suis en train.
Bon, bah, courage alors. Effectivement, ouais, tu me tiendras au courant pour le deuxième livre, comme ça on continue d'en parler, parce que le savoir est une arme. C'est très important de ne pas rester seul et de s'instruire. Ça, c'est ce qu'on conseille aux nanas qui nous écoutent. Voilà, merci plus pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a apporté quelques réponses à tes questions, mais en tout cas, comme il est dit et redit, c'est une période très vulnérable pour toi. Tu es plutôt fragile, donc au lieu de t'isoler et de te replier sur toi-même, je t'encourage et on t'encourage à faire appel à des professionnels de santé conventionnels, à des professionnels de bien-être, donc des coachs, des thérapeutes, des sophrologues, mais aussi à des avocats lorsque tu en ressens le besoin, lorsque eh bien ça ne va plus dans le milieu professionnel et que tu veux quitter ta boîte. Surtout ne fais pas ça toute seule comme ça dans ton coin à la va-vite, mais prends conseil des professionnels compétents. Ils te donneront les meilleurs conseils pour que tu en ressors la plus victorieuse possible. En tout cas, pour éviter tout regret par là. Comme d'habitude, si tu veux soutenir le Café des Burnies, eh bien, je t'encourage à me laisser un avis. Je le lirai aux prochains épisodes. Tu peux me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Apple Podcast et tu peux le partager tout partout autour de toi. On ne sait jamais le bien qu'il peut faire et l'aide qu'il peut apporter. Si tu veux qu'on échange sur cet épisode, ou n'importe quelle autre question, je t'encourage à rejoindre ma Safe Place. C'est un espace d'échange et d'entraide qui t'évite de passer par un réseau social. Et sinon, eh bien, je te dis, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, booste ton feeling good.